9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Cyril Dion.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur du documentaire Demain, 1 million d'entrées en salle, un César, puis sorti dans plus de 30 pays. Demain, j'en parle parce qu'il est repassé hier soir sur TMC dans le cadre de l'opération Les 24 heures de la Terre. Vous connaissez l'audience ?
Non.
Je vais vous la donner. 491 000 téléspectateurs et 2,2% de part d'audience. C'est pas mal pour une rediffusion. Je précise qu'on devait être avec Fanny Agostini, qui ne peut pas être avec nous ce matin. On pense à elle et on l'embrasse. Vous êtes également, Cyril Dion, je reviens à vous, à l'origine de la pétition L'Affaire du siècle. Et c'est donc aujourd'hui la Journée mondiale de la Terre, événement qui existe depuis 70 ou depuis les années 70. C'est plus qu'une journée symbolique. Après le départ du climato-sceptique Donald Trump, le président américain Joe Biden remet les USA dans la course contre le réchauffement climatique, va se tenir une grande visioconférence des grands chefs d'État de la planète, 40 participants dont Angela Merkel, Emmanuel Macron, normal, mais également Vladimir Poutine et le chinois Xi Jinping. Qu'en attendez-vous, Cyril Dion ? Car vous êtes très concerné par ce qui se décide en très haut lieu.
Ce qu'on attend, c'est que la Chine prenne des engagements plus importants encore que ceux qu'elle a pris jusqu'à maintenant. Elle a déjà fait des progrès puisque pour la première fois, le pays s'est engagé à la neutralité carbone en 2060, donc là on espère qu'il descende à 2050. Mmh. On espère aussi que les engagements des États-Unis vont être aussi volontaristes que ce que les discours de Joe Biden et de John Kerry laissent à penser.
D'après le Washington Post, ils vont annoncer 50% de baisse d'émissions de gaz à effet de serre.
D'ici 2000...
Après, c'est l'année. Enfin, c'est l'année qui pose problème.
Oui, exactement. Parce que là, l'Europe vient de s'engager donc à moins 55% d'ici 2030, ce qui est un progrès, puisque jusqu'à maintenant, on était plutôt à moins 40%. Mm-hmm. En fait, on se rend compte que le réchauffement va plus vite que ce qu'on avait imaginé et que les différentes projections du GIEC qui avaient été faites, qui étaient relativement pondérées et prudentes, étaient plutôt dans la fourchette basse. Mm-hmm. En tout cas, c'est ça que l'un des auteurs du prochain rapport m'a confié récemment. Et donc, même les pays et même les chefs d'État s'en rendent compte. Et ils voient bien qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions que de prendre des engagements extrêmement ambitieux.
Alors, le président Poutine va participer à la conférence, mais il est resté très vague, tout en affirmant sa volonté. Il a promis que la Russie allait s'attaquer au réchauffement climatique de manière sévère. Mais va savoir ce qu'est de manière sévère, on n'en sait rien. Hier, là c'est du concret, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé une baisse de 78% pour 2035. 78%, c'est un chiffre prodigieux. Mais 2035, c'est dans 14 ans, Boris Johnson ne sera plus aux affaires depuis longtemps. Est-ce que vous ne préféreriez pas des chiffres plus modestes, mais pour l'année prochaine, du concret, avec donc la possibilité de dire au chef d'État, vous n'avez pas tenu parole ?
Si, on préfère vraiment que les engagements soient pris dès maintenant et que chaque année des baisses significatives, en fait. Parce que le problème de se donner des dates relativement lointaines, donc déjà 2030 c'est mieux que 2050, puisque jusqu'à maintenant tout le monde parlait de neutralité en 2050, mais le problème qu'on a, et c'est encore une fois ce scientifique du GIEC qui me l'a confié récemment quand je suis allé l'interviewer pour un documentaire, c'est que on va dépasser les 1,5 degrés fatidiques qui étaient supposés être la barre qu'on ne devait pas dépasser d'ici 2030-2035. Mm-hmm. C'est à peu près certain, étant donné la quantité de carbone qu'on a mis dans l'atmosphère et l'inertie qu'il y a, donc qui fait que le carbone reste un certain nombre d'années et continue à réchauffer. Et on va dépasser les 2 degrés entre 2040 et 2045. Mm-hmm. Donc, si les pays se donnent des objectifs trop lointains et que d'ici la date de ces objectifs, ils font rien, ils comptent par exemple sur des ruptures technologiques pour pouvoir faire beaucoup d'efforts d'un coup au dernier moment, ça va être catastrophique parce que pendant ce temps-là, le réchauffement va continuer et tout le carbone qu'on met dans l'atmosphère aujourd'hui va continuer pendant des décennies à réchauffer le climat.
On est bien d'accord. La journée de la Terre, je vais le préciser, c'est également sur les ondes, à commencer par la radio. Europe 1 propose toute la journée de nombreux rendez-vous pour sensibiliser les auditeurs. Et la journée va se terminer en musique avec la rediff d'un concert Liveurs qui avait été organisé sur les 7 continents. J'ai appris qu'il y en avait 7 parce que c'était le 7 juillet 2007. À noter qu'il y a des chaînes qui vont marquer le coup. Arte ou France 5, toute la journée sera consacrée à l'environnement. Et ce soir sur France 5, un documentaire sur les dinosaures. Et je précise aussi, parce qu'on l'avait reçu une fois, Olivier Chiabodo, son application des Explorers, c'est l'application du jour sur Apple. On parle avec vous, Cyril Dion. On n'est pas sur des petits propos de café du commerce. Pour donner votre dimension, le 15 mars, vous avez été reçu en tant que garant de la Convention citoyenne pour le climat par le pape François à Rome. Que vous a-t-il dit ? Que lui avez-vous dit? On marque une pause et on se parle de tout ceci. Culture Média continue, à tout de suite.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Cyril Dion, à l'origine de la pétition L'Affaire du siècle, mais c'est pas tout. Co-fondateur avec Pierre Rabhi de l'association Colibri, mais c'est pas tout. Réalisateur du documentaire Demain, qu'on peut toujours voir sur toutes les plateformes VOD. Cyril Dion, le 15 mars, je l'ai dit, vous avez été reçu en tant que garant de la Convention citoyenne pour le climat par le pape François à Rome. Il vous a vraiment dit « faites la révolution ».
Oui. Ben, d'abord, il nous a dit qu'il était très inquiet de la situation écologique. Enfin, il avait écrit une encyclique sur le sujet, Laudato si. Il nous a aussi dit qu'il était très inquiet de voir la montée des populismes un peu partout en Europe et dans le monde. Et que pour lui, la solution, c'était les mouvements populaires. C'était la solution au populisme. Et donc, que ça signifiait que les gouvernements devaient écouter leurs citoyens. C'est d'ailleurs pour ça que j'allais lui parler de la Convention citoyenne et de ce qui se passait en France avec la loi climat et le fait que le président de la République n'avait pas tenu sa promesse vis-à-vis des 150 citoyens tirés au sort. Et il nous disait, la génération qui est aux manettes aujourd'hui est sourde et enfermée dans la doxa de la finance. Mmh. Donc il faut les bousculer. Donc il nous a dit, je vous dis la même chose que ce que j'ai dit aux jeunes quand j'ai été élu pape en 2013 en Argentine. Allez dans la rue et faites la révolution. Et il nous disait que cette révolution, pour lui, pouvait venir des plus jeunes et des plus vieux qui étaient capables de penser en dehors du cadre d'avoir des solutions créatives.
Alors, il paraît que vous lui avez raconté également les gilets jaunes. Et question, quel rapport entre les gilets jaunes et l'écologie? Je vous précisais le sens de ma question. Je me souviens au contraire que les gilets jaunes étaient contre toutes les taxes sur le carburant et que c'était même justement ce qui avait mis le feu aux poudres, prendre des mesures en faveur de l'environnement.
Ben, en fait, le rapport, c'est que c'est l'exemple parfait d'une mesure qui a été prise de façon injuste socialement et économiquement, en faisant peser sur les plus fragiles l'effort pour réduire la consommation d'essence et donc les émissions de gaz à effet de serre.
Là, juste on demandait à des personnes... Juste un mot, il aurait fallu faire comment? J'entends bien ce que vous dites, mais il aurait fallu faire comment?
Il aurait fallu taxer en fait les entreprises qui elles-mêmes aujourd'hui sont responsables de la majorité des émissions de gaz à effet de serre. Là, on vient de voir un classement qui a été fait par Oxfam des entreprises qui polluent le plus. Bah, aujourd'hui, faire porter cet effort fiscal sur Total, sur les grandes banques comme la BNP, comme la Société Générale, qui font des profits extraordinaires, qui distribuent des dividendes et qui, eux, sont en moyenne et en proportion moins taxés que des personnes qui gagnent très peu et qui n'ont pas le choix que de prendre leur voiture pour aller travailler, ben ça, ce serait une solution plus juste et structurellement plus efficace, parce qu'elle permettrait de réorienter des investissements, notamment pour les grandes banques, dans une économie qui est beaucoup plus soutenable.
Pour répondre aux gilets jaunes, justement, en avril 2019, le président de la République avait annoncé la création d'un conseil de défense écologique qui réunit le Premier ministre, les principaux ministres en charge de la transition écologique et lui-même. Quel bilan en tirez-vous?
Bah, c'est un peu le même bilan que sur l'ensemble des décisions qui sont prises par ce président de la République. C'est-à-dire qu'il a tendance à décider tout seul, vraiment, dans des petits cénacles. Et il crée des instances, puisqu'il a aussi créé le Haut Conseil pour le climat en 2019, qui réunit un certain nombre de scientifiques éminents sur la question climatique, notamment un certain nombre qui participent au GIEC, comme Valérie Masson-Delmotte, qui est vice-présidente d'un des groupes de travail du GIEC. Et il les écoute pas. Là, sur la loi climat qui va être adoptée là dans les jours qui viennent à l'Assemblée nationale, le Haut Conseil pour le climat a rendu un avis en disant elle n'est pas à la hauteur, elle permet pas à la France de tenir ses engagements. Et le gouvernement s'est obstiné à réduire l'ambition des propositions qui avaient été faites par la Convention citoyenne de façon assez incroyable et à ne pas se donner la possibilité de tenir les objectifs qu'il s'est donné lui-même. C'est-à-dire que le gouvernement s'est donné lui-même des objectifs de réduire de moins 40% les émissions d'ici 2030. Les citoyens de la Convention lui en ont donné les moyens en lui proposant un plan très ambitieux. Ouais. Et le gouvernement se tire une balle dans le pied tout seul en ne se permettant pas d'y arriver.
On est une émission média. Comment expliquez-vous que depuis le temps que les médias parlent d'environnement, que le message soit toujours aussi difficile à faire passer? Pour prendre un exemple concret, pourquoi les gens continuent à se ruer dans les supermarchés? Je parle évidemment quand ils ont le choix d'aller dans une petite boutique, le petit commerce juste à côté.
Ben, déjà, je trouve que ça change beaucoup depuis 3 ans. En gros, depuis l'été 2018, on voit dans tous les sondages d'opinion qu'il y a un intérêt et
dans les sondages, mais dans les faits.
Dans les faits, on le voit sur un certain nombre de curseurs. Ouais. Notamment, on voit que la consommation a tendance à baisser pour la viande, à augmenter pour les produits bio, que à chaque fois que les gens peuvent, en gros, faire l'effort, ils le font. Maintenant, et c'est ce que disait un peu Vincent Verza tout à l'heure, c'est un problème structurel. Ouais. Vous dites qu'ils ont le choix, mais où
j'ai dit
ils
quand
ont le choix.
Non, j'ai dit quand ils ont le choix, évidemment. Si vous êtes en plein centre de Paris, vous pouvez pas aller
quand
chez
ont le choix,
cultivateur. J'ai une toute petite dernière question, parce que le temps presse. Sur le papier, tout le monde est favorable à l'environnement, mais des affaires récentes ont montré que certains élus écolos font peur. On a vu ces maires écolos de grandes villes qui refusent la 5G, qui ont banni les sapins de Noël, qui refusent des subventions à une association d'enfants handicapés parce que l'avion ne doit plus faire rêver. Et tout récemment, vous avez vu cet élu de Vincennes qui a refusé de voter une subvention au nom de la pollution à un yacht club, donc des bateaux à voile. Vous comprenez que les Français craignent le retour de l'écologie punitive. Et que proposez-vous à la place ?
Alors, ça va être dur de répondre à toutes ces questions.
Ouais.
En gros, non. En gros, c'est quand même des polémiques qui ont été un peu montées en épingle, il faut quand même le dire. Par exemple, le maire de Lyon à qui on a reproché de vouloir interdire la viande à la cantine, c'était une mesure provisoire pendant 3 semaines. Et Gérard Collomb de La République En Marche avait pris exactement la même mesure.
Et j'avais fait exprès de ne pas citer cet exemple.
Ce fameux jeune élu, il s'est excusé sur Twitter tout de suite après. Il a 19 ans, 20 ans. Il dit, je suis vraiment nul. J'ai passé plus de temps à étudier mes partiels que le dossier. Il s'est retrouvé comme un andouille. Et en l'occurrence, personne ne s'intéressait à ces conseils municipaux avant. Personne n'allait chercher des discussions dans le conseil municipal de Poitiers.
On est d'accord.
Avant, là, il y a vraiment une stratégie pour essayer aussi à chaque fois de taper sur les maires écolos.
Merci beaucoup. Je suis obligé de vous dire merci, Cyril Dion. Voilà. La stratégie, ça fait partie des médias et vous le savez autant que moi. Après le rappel des titres dans Culture Média, on va recevoir Clémence Olivier pour le zapping du lendemain, Chameroy pour son écran de veille qui prend soin de vous, le DJ et producteur Yuxek, ce sera notre invité Culture, c'est lui qui a signé la musique dans Thérapie. Culture Média continue, à tout de suite.
Europe 1, Culture Média.